Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et le chapitre qu'on va regarder cet après-midi, c'est Jean 17. Et c'est la prière où Jésus, quand il était encore sur terre, il prie pour son Église. Il intercède pour nous. Dieu est pour nous, dit Romains 8. Jésus prie pour son Église. Une Église qui a depuis toujours besoin des prières. Dès le début de l'histoire, l'Église était éprouvée, tout de suite. Si vous lisez l'Épître aux Galates, vous lisez que dès le début, presque, c'est écrit 60 après Jésus-Christ, à peu près, c'était le premier Épître, et là déjà, il y a des fausses doctrines. Des gens qui disaient un peu n'importe quoi. C'est venu tout de suite. Hein. Mais ce n'est pas que des difficultés d'intérieur, mais c'était aussi des difficultés qui venaient de l'extérieur. Vous avez peut-être vu des films avec Néron, comment il traite les chrétiens à l'époque. Alors, très vite, il y a la persécution qui est venue. Avec Néron qui a tué finalement Pierre et Paul, et plus tard aussi des autres empereurs qui étaient contre les chrétiens. Peut-être vous rappelez de l'histoire hein, de la France, 24 août 1572, c'est la nuit de Barthélemy. Le massacre, 30 000 protestants étaient massacrés en France ce jour-là, ou cette nuit. Là. 1637, au Japon. Le Japon ne voulait plus avoir tous ces chrétiens dans le pays. Ils ont massacré 40 000 à ce jour-là, les chrétiens. Oui, c'est tragique, mais peut-être on peut dire ouais, c'était dans des moments sombres de l'histoire. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup plus évolué. C'est plus comme à l'époque. 2018, après les statistiques, il avait 180 000 morts par la guerre. 2018, à peu près 180 000 morts par la guerre. En Europe, 25 000 morts sur les routes hein, par les accidents de voiture. Et entre 100 et 150 000 chrétiens qui sont morts en martyr en 2018, seulement en une seule année. Après le journal très sérieux Die Weltwoche en Allemagne. Ils disent que chaque année, autour de 100 000 chrétiens meurent en martyr dans le monde. Alors on ne peut pas dire, ah voilà, c'était au Moyen-Âge. C'est aujourd'hui que ça se passe. Aujourd'hui que l'Église chrétienne est persécutée. Et j'ai parlé, voilà, de l'extérieur, mais à l'intérieur. À Paris même, seulement à Paris, il y a entre 500 et 1000 églises évangéliques. Combien de pasteurs autoproclamés? Combien de divisions? Combien de guerres de membres et de guerres des sous dans des différentes églises? Parce qu'on n'arrive plus à s'entendre. Alors on multiplie les églises. Alors quand Jésus prie pour son église, comment il se prend? Et nous allons le découvrir au fur et à mesure. L'importance de prier pour son Église. Alors, on va lire tout un chapitre. Ça va être dense. J'ai essayé vraiment en très peu de temps, vous montrer le plus important. Ce n'est pas évident, hein, vraiment. Hein. J'insiste pour le mot « essayer hein. ». Je n'ai pas tout compris. Et même si j'aimerais vous expliquer le plus clairement possible, je ne sais pas si j'arrive. Hein. Alors, on essaie de voir. Le début. Le début de sa prière, c'est un moment de louange, d'intimité avec son Père. Versets 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, à celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant ton œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revête-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » On voit ici dans ce texte Jésus en face de son Père. Et on remarque tout de suite dans ce verset-là, Jésus et son Père, ils forment une véritable équipe. Il y a quelque chose de fusionnel hein, dans leur relation. Jésus ne dit pas dans un autre texte, Dieu et moi, nous sommes un. Hein, il y a une vraie fusion entre les deux. Dès le début de sa prière, on remarque sa vraie passion, la force de cette unité. Et c'est cette force-là qui a changé l'histoire des hommes. Et c'est cette force-là qui changera l'histoire de l'Église de Pompée. Si on trouve cette unité, mais vous allez comprendre par la suite, hein, que Dieu avec son Fils, si on trouve cette unité parmi nous, ça peut être la force pour changer des choses. Jésus est conscient que face à son Père, c'est donnant-donnant. Chacun a son rôle à jouer. Dans sa prière, il n'a pas de place pour le doute. C'est comme si c'était déjà fait. Jésus savait bien en avançant. Ah, qu'est-ce que je voulais dire là? Ah oui, voilà. Jésus savait bien, s'il veut faire éclater la gloire de son Père, comme il l'utilise ici, hein, c'est vraiment que le Père soit glorifié en toute chose, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il ne peut pas s'arrêter avant. Il faut aller jusqu'à la croix. Il est conscient, même si son humanité lui suggère autre chose plus tard, qui veut dire non, que ça ne m'arrive pas. Il est conscient qu'il faut aller jusqu'au bout pour la gloire de Dieu. Et pourquoi il veut faire ça? Pour avoir à nouveau sa place. Hein, vous avez peut-être remarqué dans le verset 5, « Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Jésus, en tant qu'humain, homme, il veut retrouver sa place qu'il avait. Je pense qu'il avait certainement beaucoup de moments fort sympathiques dans sa vie pendant ces 33 ans. Avec sa famille, avec ses amis, avec ses disciples, avec les gens qu'il a rencontrés, avec les enfants et j'en passe. Et cette idée, on va recroiser plus tard en Hébreu chapitre 11, où c'est marqué les hommes de la foi. Ils ont tous cherché autre chose. Quelque chose qui est plus loin, hein, où c'est marqué dans le verset 16. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent. Par leur foi, ils cherchaient à aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur prépare une cité. Il y a 4 sujets de prière dans ce texte. Si vous avez là sur votre feuille. Je sais, le 4e sujet est cité un peu dans tous les rencontres économiques entre catholiques, protestants et tout ça, hein, cette unité. Ça, c'est pour ça, le texte est très connu. Mais il y a des autres sujets de prière dans ce texte. Le premier sujet, une église sous protection. Je te fais connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié, et ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi et à toi, comme tout ce qui est à toi, ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, ce que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Quand que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Alors Jésus prie dans ce passage pour la protection de son Église. Voilà. On pourrait me reprocher de dire qu'il prie ici pour son Église parce qu'il prie plutôt pour ses disciples à ce moment-là. Mais pour moi, les disciples, les apôtres, c'était les précurseurs, on peut dire, les précurseurs de l'Église. C'est par eux que l'Église va voir le jour. Cette Église, encore naissante, encore fragile, encore sans vraie forme et ni de contenu. Cette idée de Dieu, hein, représentée que par 12 hommes en ce moment-là, fragile, ou pas quelques femmes aussi, hein, fragile, cette future Église a besoin de la prière de notre Seigneur. Et c'est une prière de protection. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il dit que nous valons d'être protégés. Étonnant. Nous valons d'être protégés. C'est parce que nous sommes tous des super méga chrétiens de la mort qui tue. C'est pour ça. C'est parce que les apôtres étaient tous des super apôtres qui avaient un pas défaut, qui étaient vraiment que à 100%. C'est pour ça? Non. Vous savez pourquoi? Ils valent la peine parce qu'ils étaient volontaires. Ils voulaient suivre Jésus. C'est du sérieux. Et c'est ça qui compte pour Jésus. Pour lui, ça compte que nous montrons que ce que nous croyons, ce que nous faisons, pour lui, c'est du sérieux. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que Jésus était parfois là ou écœuré par leur manque de foi et compréhension des disciples? Oui, 3 fois oui. Est-ce que dans notre faiblesse, nous valons la peine d'être gardés? Oui, oui, ça vaut la peine. Pourquoi? Ils sont une partie de moi-même. Et là, Jésus dit une phrase que je trouve tellement fort. Parfois, ça m'arrive encore, j'ai lu la Bible pas mal de fois, hein, mais parfois il y a des versets comme ça, et tu les lis, et c'est comme la première fois. paf, ça te touche vraiment, ça te donne un choc électrique. Et là, c'est cette phrase-là, hein. Ma gloire rayonne en eux. Jésus dit que sa gloire rayonne en nous, dans nos vies, dans notre Église, qui est là, petit, vulnérable, avec beaucoup de défauts. Mais sa gloire veut rayonner en eux, comme sa gloire veut rayonner dans les disciples quand ils prient ici. Ça, c'est fort. Ah, il est pour nous. Il ne dit pas pour rien, il est pour nous. Il veut aller avec nous jusqu'au bout, malgré tous nos défauts, malgré tous nos manquements souvent. Il veut aller jusqu'au bout, malgré nos mauvaises humeurs, malgré n'importe. Ma gloire rayonne en eux, en nous. C'est tellement fort. Mais nous avons tellement besoin d'être protégés. Nous avons tellement besoin de quelqu'un qui nous prend par la main. Quelqu'un qui nous entoure par derrière, par devant, par en haut, par en bas. Jésus sait comment nous sommes vulnérables. Alors nous avons besoin de la protection, de la proximité de Dieu dans notre vie. Alors il se tourne vers un deuxième sujet. Et le deuxième sujet, versets 13 à 16, une joie parfaite malgré la haine. À présent, verset 13, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartienne pas. Je ne te demande pas de le retirer du monde, mais de le préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Là, c'est à nouveau, j'étais étonné. Parce que si on pense à Jésus, on pense à quoi ? Souvent, on pense à sa croix, son couler, résurrection, ses souffrances et tout ça. Après, on pense peut-être à son combat contre les pharisiens. On pense au miracle qu'il a accompli. Et ici, on peut lire qu'il avait la joie parfaite dans sa vie. Il avait une relation profonde avec son Père. Il avait des vrais amis dans la vie. Jésus était beaucoup plus que les trois derniers jours de sa vie. Là où il avait souffrance, etc. Il y avait des moments de fête dans sa vie. Le bonheur, du temps passé avec des enfants, et ainsi de suite. Une joie parfaite qui est pour moi la paix dans l'âme absolue. Il connaissait ça. Et cette joie parfaite vient d'une appartenance solide. Elle est basée sur la parole de Dieu, Jésus nous dit. Et elle est possible malgré un contexte hostile. Tout le monde lui voulait. À la fin de sa vie, tout le monde va crier, crucifiez-le. Et lui, il peut dire, quelques heures plus tôt, il peut dire, dans ma vie, j'ai la joie parfaite. J'ai trouvé vraiment ce qui est important. Jésus veut nous donner cette joie aujourd'hui et maintenant. Et c'est possible parce que cette joie n'est pas liée à mon porte-monnaie, ni à notre retraite, ni à notre église. Elle est seulement liée à notre relation avec Dieu et à sa parole. On peut l'avoir. Et Jésus prie pour que chacun de nous puisse la trouver, cette joie parfaite en lui. Et pour la joie parfaite, est-ce qu'il faut s'attendre d'être au ciel? Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez fait attention? Est-ce qu'il faut quitter le monde pour être au ciel, pour l'avoir? Non. On ne l'attend pas. Qu'un jour au ciel, quand nous avons quitté ce monde méchant avec ces gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, pour arriver à cet endroit où il n'y a plus de mal, plus de diable, et que Dieu en tout. La joie parfaite est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, dans votre vie. Celui qui cherche, qui s'attache au Seigneur peut la trouver. Et Jésus-Christ est aujourd'hui à la droite du Père. Hein, c'est marqué dans le texte. En priant pour chacun et chacune de nous pour que nous puissions trouver cette joie parfaite, cet attachement au Seigneur. Ça va jusqu'à présent? Vous avez compris, hein? Jésus-Christ, il prie son Père pour nos besoins les plus importants. Un, pour notre protection, et deux, pour notre besoin de paix, de joie, d'harmonie, si on veut dire comme ça. Et un troisième sujet, il prie pour une consécration jusqu'au bout du monde, versets 17 à 19. Alors, autrement dit, il prie, pour notre besoin d'avoir une mission, d'avoir quelque chose à faire, d'être utile. Et c'est la mission. Ce fait d'avoir quelque chose à faire donne le sens à ma vie, à notre vie, la valeur à nos vies. Consacre-les, verset 17, par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. La mission, quand il pense à la mission, c'est dit maintenant la mission, est partager sa parole partout dans le monde. Et c'est quelque chose de sacré pour lui. Ma traduction parle de consacrer. Hein, vous avez entendu. Hein, consacre-les par la vérité. Consacre-les. Il y a des autres traductions où c'est marqué sanctifie-les par la vérité. Ou il y a un autre qui traduit par fais qu'ils soient entièrement à toi. Hein, c'est ça un peu l'idée de consacrer quelqu'un qu'il est entièrement à ce service. Dans l'Ancien Testament, ils ont sacré des rois, hein, des prêtres, des prophètes, pour qu'ils soient entièrement au service de leur pays, etc. On connaît ça aussi. Hein, il y a le sacre de Charlemagne, le sacre de Louis XIV, le sacre de Napoléon. Il y a même aujourd'hui, je pense que c'est la date d'anniversaire, 8 décembre 877, c'était le sacre du roi Louis II, le Bègue. Voilà, c'est ça. C'était aujourd'hui, je crois. Il y a pas mal de temps. Hein. Nous sommes intronisés de partager notre foi, la parole de Dieu, dans le monde entier. C'est ça l'idée que Jésus veut partager. C'est ça sa prière, que chacun de nous soit intronisé dans ce service. Hier soir, on était en route pour parce qu'on voulait manger avec les parents à Florian. Voilà, exactement, à Florian. Et on était dans la voiture et on a discuté. Parce qu'on avait l'impression qu'on n'arrive pas à nous libérer de cette pression d'être un témoin. Hein, je ne sais pas si j'arrive à... tu es là, tu vas rencontrer quelqu'un, mais dans ton cœur, tu as toujours l'idée et tu penses toujours à... On devrait dire quelque chose. Hein, tu devrais partager ta foi, quelque chose comme ça, parler de Jésus. C'est toujours là. C'est toujours là cette idée. Et on discutait, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faudrait se débarrasser de ça? Et pour vraiment que se consacrer à la joie de vivre et à bien manger et tout ça. Et finalement, on a dit, non, la réponse est ici, dans ce verset. Nous sommes entièrement à lui. Nous sommes entièrement à lui pour parler de lui. Sans que ça devienne un poids ou quelque chose comme ça, que tout est caché seulement parce que j'essaye de... Mais on a pu vraiment, on a pu parler de lui. Hein, c'est le Seigneur a donné. Alors ce n'est pas un poids, mais on est consacré pour. Et Jésus prie que chacun de nous, voilà, est consacré à ça, consacré à partager. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé. Alors, seulement quelques phrases encore sur le quatrième sujet de prière. Un sujet très important. Hein? Parce que si, même si nous avons fait des progrès, il manque d'unité. Encore aujourd'hui, c'est un talon d'Achille des églises chrétiennes, l'unité. Hier, on a appris voilà, que Raymond n'est pas bien. Et c'est Notre-Dame, elle habite là, tout de suite là en face, qui nous a amené les clés pour la salle. Elle est rentrée, on a bu un café ensemble, et elle voulait savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. Et à nouveau, comme chaque fois, c'est difficile à nouveau de dire, voilà, nous sommes comme ça, nous ne sommes pas comme ça. Oui, mais pourquoi vous ne faites pas ça, nous on fait comme ça. Ah, à chaque fois, c'est pourquoi vous êtes église évangélique? C'est quoi la différence avec les protestants? Pourquoi, hein? Chaque fois, c'est... On a encore vraiment du mal. Alors, un état fusionnel, versets 20 à 26. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Et là, voilà, la phrase, il faut comprendre, avant... Sa prière centrale était pour les 12 disciples. Hein? Et là, il change et il dit, voilà, maintenant je vais prier pour l'Église dans le futur, hein, pour tous ceux qui croient un jour à lui. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Hein, c'est le fruit de voilà. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je te fais connaître à eux et je te continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois même en eux. Le thème de l'unité que Jésus a pris ici, c'est autant plus délicat parce qu'il y a toujours un prix à payer. Pour trouver l'unité. Il y a toujours un prix à payer. Alors, la question se pose, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour trouver l'unité? Pas évident. Parce qu'on le remarque en politique, hein? L'unité en politique, c'est très difficile. Parce qu'on a ces idées. Et on n'arrive pas à concevoir l'idée des autres. Et dès qu'il n'y a pas rapprochement, que toi tu mets quelque chose à côté, toi tu mets quelque chose à côté, pour que sur une base, ça on peut se retrouver. Dès qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'unité. Tout le monde va toujours être sur ses positions. Et c'est la même chose dans le monde des églises, même évangélique. Dès qu'on n'est pas prêt à lâcher un peu quelque chose, on ne va jamais trouver une vraie unité entre les frères et sœurs. Et on va toujours avoir une multitude, ce qui n'est pas mal en soi. Hein. Mais dans le Grand Nancy, il y a à 200 mètres peut-être, il y a l'église de Villers et il y a l'église de Vendeuvre. Tous les deux sont de la même mission. Hein. Tous les deux ont une salle trop petite. Tous les deux ont un budget de 500 000 euros. Je dis à peu près, hein. C'est au cours de ça. Alors, je dis, voilà, si on veut vraiment parler d'unité, ils se mettent ensemble, ils achètent quelque chose pour 1 million et c'est bon, ils peuvent acheter quelque chose assez long. Mais non, ça ne marche pas. Alors, les deux galèrent. Et les deux ne trouvent pas. Parce que des questions de parking, parce que on peut pas grandir et tout ça. Mais ils campent sur les positions. C'est rien pour jeter quelque chose. Seulement pour remarquer, c'est pas évident parce qu'il y a des choses toujours dans les églises qu'on veut pas avec l'autre, on veut pas. Pour ça, j'ai dit, si on veut unité, il faut lâcher. Hein? Il faut essayer de dire, voilà. Même si je suis pas d'accord, ça, j'oublie. Pour trouver cette unité. Hein? On n'a peut-être pas la même vision comment il faut atteindre les non-chrétiens. Alors, ça ne devrait pas nous diviser. On trouve quelque chose ensemble pour avancer ensemble. Je pense que vous comprenez. L'unité de la foi. Je te demande qu'ils soient tous un pour que le monde croie, prie Jésus. La foi prend son sérieux perd son sérieux si chacun fait sa propre soupe. Qu'ils soient parfaitement un, qu'ainsi les mondes puissent reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé. Ça demande un témoignage uni. Jésus ne demande pas, et ça vous comprenez bien, ne demande pas l'uniformité. Que chaque chrétien doit penser exactement la même chose et les quatre chevaliers de l'Apocalypse, alors savoir qu'est-ce qui est maintenant exactement chaque... Eric, il sait peut-être, mais c'est pas grave que si moi je le sais pas. C'est pas ça qui fait non... Et si moi je pense toute autre chose, c'est pas grave. Une certaine diversité des églises est probablement même souhaitable. Qu'il a des églises pour ceux qui aiment bien danser, mettre les mains en haut et foutre le... Non, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est bon. Hein, c'est qu'ils le font. Il y a des autres qui sont plus calmes. Et c'est bien pour les plus calmes. Mais dans le témoignage, ce qui est l'essentiel, avec ce qu'on veut atteindre les autres, là, c'est vraiment important. Jésus prie dans le sens. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Il faut une unité dans le témoignage. Hein. Il ne faut pas une unité dans les pantalons ou je ne sais pas quoi. Hein. Là, là. Alors, l'unité de la foi... L'unité dans le témoignage est entièrement liée à l'amour de Dieu pour nous, à l'amour de Jésus-Christ pour nous. Cet amour de Dieu, c'est la seule base possible pour avoir une unité, pour vivre ensemble et pour avancer ensemble. Que cherchons-nous ? Défendre notre part du marché ? Ce chrétien appartient à notre Église. Préserver notre beefsteak. C'est autant de questions pour l'unité entre les différentes églises que l'unité au sein de notre Église. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on avance ensemble? Reliés par cet amour que Dieu nous a donné, cet amour qui nous lie ensemble par ce qu'il a fait. Est-ce que nous travaillons et nous avançons ensemble, autant différents que nous sommes? Je résume. J'espère que vous avez compris. Dans sa grande prière, Jésus prie pour 4 besoins de l'Église. Notre besoin de protection, notre besoin d'être entouré, d'être gardé dans le monde que nous sommes aujourd'hui, ici. Ce n'est pas seulement contre les ennemis qui veulent la cause de notre foi. Ça peut être un ennemi de découragement, quelque chose qui veut m'abaisser, quelque chose qui veut me faire du mal. Nous avons besoin de la protection. Hein, pour notre besoin de paix, c'est le deuxième, de joie parfaite, de l'harmonie. Troisième, notre besoin d'avoir une mission, de nous sentir utile, que chacun de nous peut savoir, voilà, je suis là, je suis ici parce que Jésus aimerait que je partage cette foi avec des autres, que sa gloire brille en moi, par moi. Et finalement, quatrième, notre besoin d'appartenance, notre besoin d'avoir une famille, d'être ensemble, d'avancer ensemble, notre besoin d'amour, notre besoin d'unité. Voilà, c'est la prière de Jésus pour son Église.